Bonjour Marc Pacalin, vous êtes professeur de gériatrie, responsable du CMMR de CHU Poitiers, vous êtes gériatre, centre mémoire c'est donc votre univers, et vous êtes naturellement énormément en contact avec les patients et leurs familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Vous savez à quel point être aidant est une épreuve du combattant. Est-ce que vous vous occupez aussi des aidants? Comment ça se passe dans les consultations?
Invitation 1, 2, oui ça marche, il faut se rapprocher beaucoup. Très heureux de voir un amphithéâtre garni. Et oui, moi ça fait plus de 30 ans que je fais de la consultation mémoire, puisque comme Foucault, je suis élève de Roger Gilles, qui a créé la consultation mémoire dans les années 2000 au CHU de Poitiers. En préambule, madame, si vous me permettez, je dirais que le mot d'aidant, aussi beau soit-il, je peux accepter qu'un conjoint, un compagnon, une compagne, un enfant le refuse, puisque j'ai logiquement affronter cela, quelqu'un qui m'a dit « Je suis sa femme et aujourd'hui on m'appelle aidante. » Non, je suis toujours sa femme. Et quand bien même ce mot d'aidant ne soit absolument pas péjoratif et mérite un A majuscule, je crois que nous, en tant que médecins soignants, professionnels de santé, il ne faut pas qu'on oublie qu'on parle à un conjoint, à un enfant, à un frère, à une sœur, qui peuvent parfois souffrir de ce mot d'aidant.
C'est un choc pour la personne de découvrir que son conjoint, son proche, son frère évolue et n'est plus exactement celui qu'elle a connu, avec qui elle a vécu, partagé des moments de vie.
C'est forcément un choc et c'est là où, comme vous le disiez, on a un vrai rôle à jouer parfois, et pardon, en ne s'adressant plus qu'au conjoint, plus qu'à l'enfant, plus qu'aux aidants. Parce que tout est logiquement centré sur le patient, la patiente, qui est tant mieux s'il peut être le plus longtemps possible acteur de sa santé. Mais Foucault du Bois-Guenoc a montré une diapositive qui dit tout, avec ce conjoint, ce proche, cet aidant qui est le binôme et qui compense. Et à un moment, effectivement, c'est lui qui peut craquer, parce que les patients, et pardon, il y a sûrement peut-être parmi nous des futurs patients Alzheimer, mais on a à des stades ultra précoces, ce qui fait que c'est supportable. Mais vous savez que les conjoints sont des éponges, alors que les malades sont des frontons. Et quand on envoie une balle de tennis, la balle, elle revient plus vite. Et le conjoint, l'aidant, c'est une éponge qui doit tout absorber. Et c'est là où, effectivement, j'ai des consultations où je vais choquer, moi, en disant, pardon, le patient, la patiente, il reste bien sûr avec nous, mais on va plutôt parler de conjoint, d'aidant, à médecin, parce que c'est votre vie qui m'intéresse. Et parfois aussi, j'ai l'environnement familial qui souhaite se retirer au moment où je fais quelques tests qui ne sont pas, et Foucault l'a bien dit, les tests, il y a eu des progrès extraordinaires. La neuropsychologie est au centre de cela, et ensuite, au niveau intelligence artificielle, on fait des progrès extraordinaires, sauf que, il l'a dit, la réponse aujourd'hui, elle est humaine. C'est à la fois fabuleux et à la fois un peu frustrant, mais la réponse, elle est humaine. Et il y a tous ces professionnels en santé, et ressentez-vous, parlera après moi, on voit bien qu'il y a tout ce puzzle qui est fait autour des patients, et on a cette réponse humaine, mais quand on veut se parler, quand on prend le temps de se parler, et quand, et c'est ça qui peut choquer, quand la famille comprend la maladie et l'accepte. Ça, c'est mon boulot. Je vois parfois, quand bien même je suis ces malades depuis plusieurs années, je vois au moment de la consultation que soit peut-être par épuisement, soit par défaut d'acceptabilité de la réalité, on risque l'épuisement. Et donc c'est là où nous on a ce travail d'accorder du temps à dialoguer, parce que notre but c'est de rendre la situation sereine. On parle d'Alzheimer, mais on pense à toutes les maladies apparentées, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est que la situation soit sereine. Combien d'enfants se couchent à 23h le soir en étant morts de trouille, parce que son parent continue à conduire? Combien d'enfants se couchent le soir en étant morts de trouille, parce qu'ils vont partir quelques jours et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pu consolider le plan d'aide comme il faut, et que, heureusement, souvent, les choses se passent, parfois. Il y a un incident et parfois l'incident touche le proche, l'aidant.
Alors, il y a toute la question logistique effectivement à mettre en place pour sécuriser tout ça. Mais est-ce que lors des premières consultations, un des messages, c'est le défi maintenant, et le message aussi bien pour le proche que pour la personne touchée par la maladie, c'est de réussir à garder une relation, à garder des échanges, à rester dans l'humain, hein, c'est ce que vous dites, donc dans la vie, en fait.
La relation de confiance est essentielle, mais évidemment, tout dépend du moment où on rencontre les malades et leurs familles. Les neurologues les rencontrent à un âge plus jeune que moi, gériatre. Et malgré toute la chance de la Fédération des Centres Mémoire, qui depuis plus de 20 ans fait un travail considérable, force est de reconnaître que le diagnostic est toujours trop tardif. Bien sûr que le jour où il y aura une réponse médicamenteuse, il faudra, et ça c'est notre responsabilité, de pouvoir tout mettre en place pour que ces réponses soient rapidement accessibles. Et donc tout dépend de ce moment. Il y a un moment où on peut effectivement se projeter. Et puis il y a un moment où il faut gérer le quotidien de manière plus sereine. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on va aborder selon l'environnement du patient et selon le stade de la maladie au moment où on le croise pour la première fois.
C'est l'évolution des relations aussi au fil de l'évolution de la maladie. Et on va voir tout à l'heure un exemple tout à fait intéressant autour des jeux de ping-pong, par exemple, qui permettent d'avoir un autre type de relation à un proche, y compris à un stade vraiment avancé de la maladie. Donc c'est aussi être dans l'imagination. Ça veut dire accepter de ne pas se comparer toujours à ce qui se passait avant l'arrivée de la maladie, même si c'est difficile, accepter le quotidien finalement.
C'est essentiel ce que vous dites. Accepter quelque chose qui auparavant n'était pas forcément accepté par le malade lui-même. On a des professionnels en accueil de jour qui s'occupent merveilleusement bien des malades, et j'ai un coup de fil de l'épouse ou de l'époux qui vient me dire « Mais vous vous rendez compte, docteur ? Ils lui ont fait éplucher des légumes, ils détestent faire ça. » Et là, je me dis, j'ai pas été assez convaincant lors de ma discussion pour arriver à faire accepter l'accueil de jour.
Il détestait éplucher les légumes, et peut-être que maintenant, il y trouve du plaisir.
Mais c'est même pas ça. C'est que je veux du répit pour le proche. Je veux du répit pour les conjoints, pour les enfants. Quand bien même on lui fasse faire quelque chose, moi ça me plairait pas, Foucault, d'éplucher des légumes. Pardon, je m'en fiche.
C'est la culpabilité de lâcher l'affaire, c'est ça qui est difficile chez les proches.
Énormément de culpabilité, l'impression de trahir mon proche.
Je devrais être là 100% pour lui parce que j'y suis tellement attachée. Et quelque part on est dans la confusion parce que l'aide apportée n'est plus forcément aussi de qualité parce que je suis en voie d'épuisement.
Et ne pas trahir ce que je lui ai dit à un moment que je ne laisserai jamais tomber. Mais on ne le laisse pas tomber.
Ça, c'est les promesses. Hein, vous disiez, jamais il ira en maison de retraite, jamais il ira en EHPAD. On a dit ça quand on avait 50 ans. Et puis là, il y a ce bouleversement qui est lié à cette maladie et les choses ont changé. Accepter que les choses ont changé.
Et c'est pour ça qu'une manière un peu violente, sûrement, moi je demande aux familles parfois de rester devant ces fameux tests pour que la famille voit, entende ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on veut supporter, et le petit déni. Mais c'est vraiment pour le bien du conjoint, le bien des proches. On a de la chance en France. Oui, il n'y a pas de traitement médicamenteux et on sait que c'est difficile. Mais il y a une telle ressource qu'il faut à tout prix qu'on soit convaincant et on finit par y arriver. Et c'est le suivi qui est important. C'est sûr que si on voit les personnes une fois et puis après on les revoit 2 ans plus tard, ça ne va pas le faire. Parce que les médecins traitants ont besoin de nous, parce que les familles ont besoin de nous. Et donc voilà, c'est un discours qu'il faut savoir rabâcher pour arriver à convaincre et à comprendre que ce mot de répit, il est essentiel. Parce que quel que soit votre amour, quel que soit votre côté fusionnel, si vous êtes épuisé, c'est la spirale. Hein. Je vais pas bien, le malade ira moins bien, le malade va moins bien, je vais encore moins bien. Et puis là, évidemment, ça finit par exploser. Il y en a des situations de crise qui sont très douloureuses à vivre.
La Fondation Cherche Alzheimer a fait un sondage avec notre temps, au cours duquel, dans un certain nombre de questions, il y en avait une qui était « Vous est-il déjà arrivé de perdre patience ou de vous sentir pas loin de devenir néfaste pour votre proche ?» Et il y avait eu un taux élevé de réponses positives à cette question. C'est quelque chose que vous voyez aussi quand on est trop épuisé dans vos consultations ?
C'est humain. D'extrêmement bienveillant, on devient un peu moins bienveillant, et puis tout d'un coup un peu malveillant et possiblement maltraitant, parce qu'on est humain. Certains sont plus sanguins que d'autres. Hein. Mais quand on est fatigué, même avec nos enfants, on a des réactions débiles parfois. Puis on s'en veut. Voilà, c'est tout. Il y a un moment où il faut savoir couper le son, couper la lumière.
Alors, il faut accepter de déléguer, mais après, il faut savoir à qui déléguer. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bonnes aides? Et qu'est-ce qu'il y a ici à Poitiers pour aider les aidants?
Eh bien, à Poitiers, on a la chance d'avoir l'association France Alzheimer qui fait un boulot extraordinaire, dirigé auparavant par M. Jacques Henry et maintenant par Alain Claisse, qui est l'ancien député maire. Donc, c'est important d'avoir des personnes de responsabilité à la tête de France Alzheimer. On a des plateformes de répit qui sont très importantes. Et puis, on a le dispositif d'appui à la coordination avec un numéro vert. Enfin, on a un numéro vert. Et promis que quand on le fait, on n'attend pas des lustres avant d'avoir la réponse à la question que l'on souhaite poser. Et c'est ça aussi. J'ai parfois des consultations où ce que vous me demandez de dire, c'est exactement ce que j'ai à dire. À l'heure de Google, d'Internet, où les gens ont tout devant les yeux, ils ont un besoin, un moment, qu'un professionnel de santé dise la chose pour dire que nous, on a confiance en ces structures et que si elles existent, il faut y aller. Oh, mais quel accueil de jour vous préférez? Quel EHPAD vous... Non, non, je préfère aucun accueil de jour. Je remercie tous ceux qui s'impliquent dans ces accueils de jour. On a besoin de tout le monde. Vraiment, c'est une chaîne humaine. Et je ne vais pas faire la fine bouche, donc c'est bienvenu. Et on sait qu'il y a des places, on sait qu'il y a des écueils, des freins à vouloir y aller, parce que j'ai l'impression que j'abandonne mon proche. Et donc ça, c'est le vrai travail à faire. Et il y a plein d'acteurs pour aider.
On va d'ailleurs accueillir certains de ces acteurs là dans quelques minutes. Restez encore avec moi. Beaucoup d'aidants disent « Ah, mais il y a des moments vraiment trop difficiles. Qu'est-ce que vous me conseillez pour gérer une crise ?» Ça, ça fait aussi partie du quotidien. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors la réponse politiquement correcte, c'est d'anticiper. Il faut anticiper, il ne faut pas attendre que la crise arrive, parce que dans l'urgence, la réponse, elle est toujours douloureuse. À l'hosto, il y aura toujours la lumière ouverte, 24 heures sur 24, mais Foucault l'a bien dit, se retrouver à l'hôpital, c'est un environnement hospitalier et qui est pourtant iatrogène. Le mot hospitalier est intéressant. Donc, parce que quand il y a une situation de crise, il n'y a pas forcément une fracture à régler, une infection à régler, c'est juste du calme. Et un apaisement à mettre en place, et vous avez tous passé quelques heures aux urgences, c'est assez dramatique. Cela dit, nous à l'hosto, on sera toujours là, et il peut y avoir aussi des entrées directes. Quand on se connaît, on peut dépanner, et pardon la sécurité sociale, parce que ce que je dis là, c'est pas très bien. C'est pas des personnes qui ont besoin d'aller à l'hosto. Ils ont besoin d'un environnement qui puisse les accueillir à n'importe quel jour et la nuit. Mais ça, ça doit vraiment être le dernier recours. Donc il faut anticiper. Anticiper, c'est d'abord impliquer la famille, pardon. Je suis enfant, je suis petit enfant, je sais au combien ça peut être pénible d'être dérangé un lundi à 22h et puis on croit que c'est fait et ça rebelote trois jours plus tard et on peut se mettre en danger sur la route parce que... Donc il faut faire attention, mais il faut que les familles s'assoient pour prendre certaines décisions collégiales qui soient la plus consensuelle possible, quand bien même on aurait promis à papa, maman ou aux grands-parents qu'il n'y aurait pas d'entrée en EHPAD ou autre. Ensuite, vous avez ces accueils temporaires, ces hébergements temporaires. Évidemment, ça a un coût. C'est vrai que si je vais à l'hosto, ben, je ne vais pas payer grand-chose, sauf si c'est une chambre individuelle et que ma mutuelle ne suit pas. Si je vais effectivement en hébergement temporaire à l'EHPAD, ben, il y a forcément le forfait hébergement et autonomie qui fait que, évidemment, ça coûte cher, et quand bien même ce soit que pour une ou deux semaines. Mais ça veut dire que ça s'anticipe. Dans l'urgence, on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Moi, ministre de la Santé, je ne paye pas votre retraite tant que vous ne m'avez pas dit si vous donnez vos organes ou pas, tant que vous ne m'avez pas dit ce que vous souhaitez anticiper pour vos vieux jours. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? On veut tous rester chez nous et on ne veut pas emmerder nos enfants. Bon, si on réfléchit à ça, alors pas le 24 décembre ni le 25, hein, c'est les fêtes de famille, mais à un moment, on prend un moment d'échange pour des choses qui sont assez vives, hein, et qui remuent. Ben, là, on cède pour l'avenir. On cède à prendre des décisions qui seront plus faciles à prendre pour les enfants. Voilà. Des moments posés, il faut qu'on ait cette responsabilité-là.
Et au moment où l'agitation parvient ou arrive, évitez de rentrer dans le bras de fer parce que de toute façon, ça ne servira à rien.
Mais si je suis fatigué, je vais rentrer dans le bras de fer. Et donc moi, je dis, on coupe le son, on coupe la lumière. Pardon, vous changez d'étage, la personne va se calmer toute seule. C'est sûr. Après, évidemment, les personnalités sont différentes. Il y en a qui sont adorables et qui resteront adorables même à des phases avancées de la maladie. Ceux qui sont un peu caractériels, ça va être plus compliqué.
Et on imagine bien ce que ça peut être. On a beaucoup de questions encore à poser, mais peut-être que vous en avez vous aussi dans la salle. N'hésitez pas, parce que Marc Pacalin est là pour vous répondre aussi à vous. Oui, est-ce que vous... Ben, allez-y, appuyez. Oh, attendez, je me sens magicienne avec ce système-là. Allez-y.
Juste une question. Donc, j'ai ma femme qui a été diagnostiquée Alzheimer après une ponction lombaire. Enfin, je pense qu'il n'y a plus trop de doutes. Malheureusement, c'est la maladie. Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Ça fait 6 mois seulement que ça arrive. Elle ne s'y attendait pas du tout. Donc, c'était à douche froide, relativement mal vécue encore aujourd'hui. Je me dis à partir de quel moment on peut se permettre de mettre la personne en accueil de jour, je ne sais pas trop quoi, enfin d'avoir l'impression un petit peu de l'abandonner. Et elle, ça doit être psychologiquement, c'est terrible ce genre de machin là, de se dire, ben mon mari me faut, pendant la journée, il se débarrasse de moi quoi, pour aller à la pêche ou à la chasse. Elle doit super ouais. mal le vivre quoi.
Bien sûr. Et vous à la chasse, vous ne serez pas à l'aise et vous risquez de rater les rondelles ou je ne sais. Non, monsieur est un fin. évidemment que c'est délicat. Mais ce qu'il faut... alors, c'est compliqué de faire une constatation un peu privée, mais pourquoi ne pas visiter certains accueils de jour? Avec un peu de chance, il y en a un qui plairait à votre proche. Ça peut. Et ensuite, pardon, vous ne restez pas avec votre épouse. Vous n'avez pas à rester pour juger et dire « Oh là là, c'est qui ces autres résidents qui partagent l'accueil de jour ?» Il faut... je ne veux pas infantiliser, mais c'est un peu comme on faisait avec nos petits-enfants. Hein, on les amenait à la crèche ou à la maternelle et on voyait les parents qui voulaient rester et qui restaient des plombes et puis qui avaient la larme à l'œil. Pardon, c'est des professionnels en santé. Ils vont parfaitement s'occuper de votre épouse, de votre proche. Faites-leur confiance. S'il n'y a pas une relation de confiance, on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas et vous allez vous heurter à énormément d'ascenseurs émotionnels qui vont vous épuiser. Or, votre femme, elle a besoin de vous en pleine forme. Si vous n'êtes pas en pleine forme, vous ne lui rendez pas service.
La question, c'était à partir de quand? Donc, c'est à partir du moment où monsieur...
C'est là où monsieur... je vous dis, vous pouvez aller visiter certaines structures avec elle. Et... Si, quand vous laissez votre proche à la maison, si ça se passe bien, vous restez 4-5 heures et que votre proche reste à la maison et que, bon, normalement, ça s'est pas trop mal passé, bah, parfait. Si vous avez trouvé une personne auxiliaire de vie qui vient passer quelques heures, parfait. Si quelqu'un de l'équipe spécialisée Alzheimer peut venir à ces moments-là, bah, parfait. Donc, c'est quand vous êtes à votre activité de loisir et que vous n'êtes pas serein. Si vous n'êtes pas serein, ça veut dire qu'il faut mettre quelque chose en place.
Est-ce qu'il y a des moments intermédiaires où, avant de parler accueil de jour, on peut peut-être laisser la main à une amie, à un enfant, à un voisin avec qui elle s'entend bien, à une activité qu'elle pratiquait ou qu'elle souhaite pratiquer?
D'abord, il faut activité occupationnelle, et ça vous a été sûrement dit aujourd'hui à moult reprises, c'est très important. Donc, et donc, profiter, oui, de tout ce maillage de personnes qui n'ont pas peur de la maladie. Parce que vous avez peut-être perdu certains amis qui se sont un petit peu retirés
ça par peut arriver.
La maladie.
Pas vous, tant mieux.
Je vous demande de pas trop impliquer les voisins. Les voisins, c'est génial, mais ils ont aussi le droit d'être absents, de partir en vacances 3 semaines. J'ai trop de patients qui me disent « Oh, mais j'ai les voisins, il n'y a pas de souci. » Oui, quand on arrive en juillet-août, non, il n'y aura pas forcément les voisins en juillet-août. Donc voilà, bien sûr, la réponse, elle est humaine. Donc toutes les personnes qui peuvent donner du temps avec plaisir, sont les bienvenus, pour peut-être effectivement rester à domicile les demi-journées, ou, et c'est très important, vous avez des activités qui vous permettent de vous oxygéner, de prendre un peu du recul, parce que vous êtes là 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Et de ramener l'oxygène dans le foyer aussi, de ramener de l'air frais dans le foyer.
Votre femme, elle a besoin de vous voir avec le sourire. Si vous avez le sourire, il y a plus de chances qu'elle l'ait aussi.
Oui, s'il vous plaît.
Pensez, quelle piste spécifique peut-on penser pour les jeunes aidants? J'entends les enfants qui sont en collège, au lycée, qui sont perturbés dans leurs propres études. Enfin, j'ai quelques cas en tête. Qu'est-ce qu'on peut penser pour ces jeunes aidants?
C'est vrai qu'il faut leur donner du temps pour voir s'ils ont compris la maladie et quel est leur niveau de souffrance. Parce que rendre service à ses parents ou à ses grands-parents, c'est extraordinaire, mais effectivement, il faut que le jeune puisse le vivre. Donc je pense que lui expliquer la maladie, ça sera le considérer, et puis lui expliquer ce qui peut se passer, c'est ça, parce que c'est ça, évidemment, un trouble du comportement, quand on est adolescent, c'est compliqué à accepter, sauf si on m'a vraiment expliqué la maladie. Voilà, c'est vrai que moi, en tant que gériatre, j'avoue que je suis moins concerné par des adolescents qui s'occupent des malades que j'ai à voir, mais Foucault ou Bruno, si vous avez, vous, des...
On sait qu'il y a des jeunes qui sont très, très tôt responsabilisés, et c'est important de leur donner les pistes, effectivement, de relais qui peuvent prendre en charge leurs proches, et on a des exemples, c'est vrai, parfois vraiment très lourds pour des jeunes adolescents ou jeunes adultes, hein, d'ailleurs, au moment où ils construisent leur vie et où ils doivent prendre en charge un parent. Il y a ici, à la Fondation Recherche Alzheimer, des personnes qui ont été concernées très jeunes par la maladie d'un parent et qui continuent d'ailleurs à s'investir au sein de la Fondation et qui savent très bien témoigner de ce que vous soulignez, madame. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour monsieur Pacalin? Oui, encore une ici. Merci pour votre témoignage, madame.
Personne ne peut mieux le dire que vous, madame.
Ouais.
Mais c'est le mot lâcher qui ne va pas. Juste, dites-vous que votre mari, il a besoin de vous en pleine forme. Voilà.
Il est d'accord. Il est d'accord. Oui, une dernière question.
Effectivement, le mot lâcher prise, pour moi, c'est pas ça. C'est accepter que la situation devienne suffisamment lourde pour plus la porter seule, en fait. Et de se dire qu'on reste épouse, qu'on reste sœur, qu'on reste fille, mais qu'il y a des professionnels qui vont aider à porter ce fardeau. Et effectivement, c'est un lâcher prise, enfin pour moi en tout cas, c'est un lâcher prise dans le sens où effectivement il y a un avant et après maladie, mais il y a quelque chose à vivre où chacun a son rôle.
Dans lâcher prise, j'entendais déléguer. Peut-être que madame, c'est plutôt ça que vous vouliez dire, mais vous avez raison, ça soulève toutes ces questions-là, effectivement. Merci beaucoup à vous pour votre intervention, vos conseils.